RCF.
On l'a appelé le petit frère de Jésus. Pour beaucoup, il restera l'une des figures chrétiennes les plus marquantes du XXe siècle. Son engagement radical à la suite du Christ a suscité bien des vocations. Charles de Foucauld est à l'honneur toute cette semaine dans Halte spirituelle. Pour découvrir sa vie et son testament spirituel, nous accueillons le père Philippe Thirier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes père blanc.
Oui.
Vous avez vécu 30 ans en Algérie.
Oui.
Donc 6 ans dans le Sahara. Alors qu'est-ce qui vous a attiré le plus chez Charles de Foucauld ?
Lors de la première période que j'ai passée en Algérie, j'ai été faire des retraites dans ces ermitages. J'étais très impressionné par le site et puis cette espèce de présence mystique qui résidait. 8 jours à Beni Abbès, 8 jours à la Sécrem. Et ça a été mon premier contact. Puis ensuite, j'étais amené à vivre 6 ans en Palestine. J'ai donc repris contact avec les Clarisses de Nazareth qui l'avaient accueilli pendant 3 ans et qui m'ont demandé de refaire un peu un livret sur ces 3 périodes très riches de sa vie spirituelle. Et puis, revenant au Sahara, j'ai été pris au jeu et on m'a demandé de retravailler toute une correspondance qu'il avait entretenue avec son évêque.
Nous allons bien sûr toute cette semaine parler de la spiritualité de Charles de Foucauld. Auparavant, évoquons sa vie. Aristocrate fortuné, militaire, dans quelles circonstances Charles de Foucauld va-t-il découvrir la foi ?
Charles de Foucauld est né au milieu du 19e siècle, en 1848. Il est un peu notre contemporain parce qu'il a connu l'évolution scientifique, il a vu passer des voitures, il a pris des trains, il a connu le télégraphe, il a rêvé de l'aviation. Et en même temps, par exemple, sur le plan spirituel, il a connu les premières photos du Saint-Suaire de Turin. Les Clarisses lui ont fait parvenir l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc il est un petit peu de notre sensibilité. Il est mort à 58 ans. Et au début de l'hiver 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale, sa vie se divise en 4 périodes d'à peu près 15 ans. Une jeunesse gâtée, heureuse, à laquelle il se réfère souvent. Une maman très attentive, qu'il a perdue quand il avait 6 ans. Et puis un grand-père un peu bon papa gâteau qui lui a passé beaucoup de ses fantaisies. Ce qui a fait que la période suivante, à 15-17 ans, il perd la foi. Et puis, il entreprend quand même une carrière militaire. Il est assez mal noté, il s'amuse beaucoup. La mort de son grand-père le met à la portée d'une fortune énorme qu'il dilapide en fête et on pourrait plutôt... Ce n'est pas un vicieux, c'est un flambeur, c'est un osseur. Et puis, un premier contact avec l'Afrique du Nord, comme militaire, le sensibilise sur le désert, sur l'islam. Et à la suite d'un voyage qui l'a rendu célèbre au Maroc, en 1873... Il cherche son chemin, il perce ses repères, il rentre dans les églises de Paris en disant « Mon Dieu, si vous existez, faites-vous connaître ». Et puis, l'influence de l'islam, peut-être les grands horizons du Maghreb, sa cousine Marie, qui a 8 ans de plus que lui, qui le récupère un peu comme une seconde maman, l'oriente vers un prêtre qui était normalien, qui s'appelait l'abbé Huvelin, et qui, non pas provoque sa conversion, mais enfin recueille sa conversion en 1886.
L'islam a produit en moi un profond bouleversement, écrit-il en 1901. Hmm.
C'est donc la foi des musulmans qui l'a aidé à comprendre qu'il y avait un Dieu, qu'on pouvait donner un sens à sa vie et que Dieu pouvait donner sens à notre vie.
C'est ça. Et alors, il a pensé, paraît-il, se faire musulman. Il avait ramené un Coran, il vivait sur la dure dans son appartement de Paris. Et puis, l'abbé Huvelin le met un peu au pied du mur en lui disant « Confessez-vous, et puis, puisque vous êtes à jeun, venez communier. » Alors, il dit « Ma vocation date de ma conversion. Quand j'ai découvert la miséricorde du Christ, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre pour quelqu'un d'autre. »
Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ces paroles sont de Charles de Foucault, alors on le voit, vous l'expliquiez il y a un instant, Père Thirier, le Père Charles de Foucault va découvrir la foi et pourquoi choisit-il le christianisme ?
Alors, on assiste d'abord à une espèce de transformation physique. Celui qui soignait très fort ses tenues, ses moustaches, qui choisissait ses cigares et puis ses paires de chaussures, devient un homme austère qui cherche l'absolu. C'était d'ailleurs un peu sa devise de famille, jamais arrière. Alors il est guidé par l'abbé Huvelin, il fait plusieurs retraites, spécialement chez des contemplatifs, et puis il fait un pèlerinage, un des premiers pèlerinages de chrétienté en Terre Sainte, sans beaucoup d'appétit, parce que c'est un peu ce qu'on lui a imposé pour chercher son chemin. Et c'est là qu'il va découvrir Bethléem, Jérusalem, sous la neige, et puis la Galilée. Et il repasse deux fois à Nazareth, parce qu'il est subjugué par cette espèce de climat de simplicité et de pauvreté qui le ramène au Christ homme.
Et c'est ça qui le séduit le plus, c'est l'humanité d'un Dieu, le Christ.
Il découvre que le Christ a vécu 30 ans sur 33, caché au milieu des hommes. Alors, d'abord, Nazareth le séduit comme un lieu de la terre où entre son père et sa mère, il va vivre des choses toutes simples, sans être connu, et donner à la vie quotidienne. Et au fond, il découvre que le Christ a racheté les hommes parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il a partagé le tout de leur vie.
Il dit qu'il veut imiter Jésus, là où il est. Ce terme d'imitation revient plusieurs fois dans sa vie.
Ça a été sa grande passion. Il dit, je l'ai cherché toute ma vie et j'ai cherché comment je pouvais l'imiter davantage. Alors, sa première recherche, c'est l'honnêteté et l'intensité de cette présence du Christ parmi les hommes. Alors, il va chercher le plus parfait. Et pour lui, ça va être 9 ans de sa vie comme trappiste. Il va penser que Dieu est le trappiste par excellence et que en suivant une vie monastique totalement attentive à Dieu et à la lecture de l'Évangile, il va penser que c'est sa voie, cette voie de rejoindre le Christ dans le silence et dans l'obscurité. Et puis petit à petit, il va évoluer vers l'esprit de Nazareth. Il va découvrir que Nazareth, c'est pas un lieu, mais c'est une ambiance, c'est une manière.
Et pourquoi part-il rejoindre l'Afrique qu'il a déjà connue?
Alors, quand il découvre qu'il n'est peut-être pas nécessaire de revenir à Nazareth, où il a fait, après son premier pèlerinage, une expérience d'absolu et d'obscurité au service d'une communauté de pauvres Clarisses, dont il est un peu le gardien, l'homme à tout faire. Il a l'impression que Nazareth, ça peut se vivre ailleurs. Et alors, il pense au Maroc qu'il a découvert, un pays perdu, inconnu, sans prêtre. Il se dit, je ne peux pas m'y installer, donc je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Et comme l'armée française venait de conquérir le sud de Oranais en 1901, il rejoint en 1901 un avant-poste qui s'appelle Beni Abbès, où il est à quelques centaines de kilomètres de la frontière marocaine.
Alors après, ce sera l'Algérie où il va mourir en 1916.
C'est ça. Donc il va passer 15 ans de sa vie entre son arrivée il y a 100 ans, en 1901, et puis sa mort en 1916, qu'on va commémorer le 1er décembre. Il y aura 85 ans qu'il est mort là-bas. Il y aura deux périodes dans cette présence au désert.
Alors nous reviendrons bien sûr sur la vie de Charles de Foucauld demain. Nous évoquerons notamment sa vie à Nazareth.